Revue de presse de l'April, semaine 47. Salut Manu.
Salut Nico.
Eh ben pas de Luc aujourd'hui, il est en déplacement donc.
Eh oui, boulot, boulot.
Voilà. Donc le sommaire, Manu.
On a 8 jolies catégories d'articles, un peu comme d'habitude. On va vous parler de l'éducation et des iPad, l'open data au gouvernement, TELS, Mozilla et les problématiques liées à la pub, le ministère de la Culture, les formats ouverts à l'école, les brevets logiciels en anglais et pour finir, superbe article sur des articles sur des artistes du X qui parlent de la neutralité du net. C'était vraiment intéressant.
Donc rue 89 en Corrèze, iPad pour tous à l'école. Vous allez voir, ce sont des mages. Un article de Rémi Noyon.
Donc un article assez long, assez conséquent, qui nous parle de logiciels privateurs et surtout de tablettes, les iPads, qui ont été distribués un peu partout en Corrèze, il semblerait, et qui sont plus ou moins bien utilisés, notamment dans cette école. Donc c'est un assez long article qui parle un peu de la situation et qui a été sur place.
Voilà, donc le journaliste a été enquêté un peu sur place pour voir comment ça se passait là-bas. Donc en Corrèze, donc, tous les étudiants et les collèges et lycées ont reçu des tablettes, malheureusement des iPads.
Très malheureusement, voilà. L'association Pulco s'en est émue et se plaint.
Voilà, et puis ils font le constat que bon, il y a des profs qui sont pas très pour parce qu'ils n'ont pas été formés ou que voilà, c'est pas encore bien rentré. Ils auraient préféré d'autres choses, hein, des tableaux numériques ou des trucs comme ça.
Ou même des vidéoprojecteurs.
Ou des vidéoprojecteurs, voilà, plutôt de l'équipement standard plutôt que de revenir sur des tablettes comme ça. Et puis ça fait le constat.
Alors l'article est pas trop mal, il est long, il est sur place, ils ont été dans un endroit, donc un collège qui a l'air de bien marcher, où les collègues des environs les traitent de mages, parce qu'ils savent gérer leur informatique, semblerait, alors qu'il y a un autre collège où là, les profs ont fait un peu grève, on les voit en photo devant leurs iPads posés devant eux sur le sol, là, ils sont pas enchantés.
Ouais, après c'est toujours le même problème, hein, c'est que quand on met une tablette comme ça sans former les gens, ils savent pas trop s'en servir ou mal. Alors en plus, professeurs qui sont censés enseigner avec, forcément ça coince des fois de temps en temps. Bon, apparemment dans certains collèges ça s'est quand même plutôt bien fait. Mais
il y a des règles d'utilisation, ouais. Les gamins, c'est un peu comme en prison, s'ils se comportent mal, on va leur enlever des privilèges sur l'usage de leur tablette. Globalement on leur demande, il y a des règles de conduite, il y a des petits diagrammes qui montrent un peu tout ça. C'est fun, allez jeter un œil si vous êtes dans l'éducation, d'autant plus si vous êtes dans l'éducation. Et puis il faut mettre en avant les produits français et les logiciels
libres, parce que là ça enferme quand même énormément les étudiants, ils n'ont pas accès à ce qui se passe derrière. La revue du digital, travailler l'open data, c'est travailler la démocratie, pour le Chief Data Officer de la France, par William Elkaïm.
Donc on reparle encore, je pense que c'est toujours la même campagne de communication de l'État et des mises en avant qu'il fait du logiciel libre et là en ce moment de l'open data.
Voilà, donc c'est toujours Etalab, hein, c'est le projet open data français qui est autour de tout ça, donc qui a publié pas mal de données des administrations françaises, qui ont publié aussi des API pour accéder à ces données, donc c'est des interfaces de programmation, et en particulier ils ont été capables de faire un système qui permet à n'importe quel citoyen de se connecter, de renseigner un peu quelques données, et ça permet de dire quels droits on a en termes de subventions sociales ou autres, pour savoir, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui ne sont pas allouées, et donc ça permet à chacun de savoir à quoi on a le droit.
Donc c'est le service Mes Aides, dont on avait déjà parlé, il me semble, 2-3 semaines. Et effectivement, je pense que ça fait partie d'un tout un tout de travail, de mise en place d'innovation, du web. Donc l'open data, c'est pour que les citoyens accèdent un petit peu à tout en temps réel. On est super fan, hein, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un nouveau magazine, c'est la revue du digital qui met ça en avant. Donc je ne sais pas si on va encore beaucoup parler d'eux, mais donc en tout cas, c'est des bons sujets. Et l'open data, c'est génial.
Là, c'est quelque chose qui peut vraiment faire bouger les choses. Il donne l'exemple, par exemple, des taxis. Hein. Il y a eu pas mal de grèves entre les taxis.
La géolocalisation en temps réel des taxis, peut-être aussi s'ils sont remplis, vides.
Voilà, on parlait beaucoup que de la géolocalisation des VTC et que ça posait problème parce que ça faisait beaucoup de concurrence avec les taxis. Ils ont dit, on va vous mettre tout ça à disposition. Vous pourrez faire la même chose avec les taxis. Donc, on va forcer les taxis à innover et à sortir un peu de leur torpeur.
C'est pas fait.
Lemonde.fr, Tails, l'outil détesté par la NSA qui veut démocratiser l'anonymat en ligne, un article d'Amel Guiton.
Un article qui est pour toi, puisque toi tu travailles sur
Je travaille sur cette problématique-là. Je connais très bien Maëlle puisque je travaille avec elle dans le cadre des cafés vie privée. Et donc là, bah, elle est présente. Elle a été interviewée les développeurs du projet Tails. Donc Tails, qui est un système d'exploitation très sécurisé, qui tient sur une clé USB. Donc on donne ça aux journalistes quand ils partent en Syrie ou dans des pays un peu plus craignos. Et le but, c'est de tout passer par Tails, d'avoir de la sécurité au maximum, de pas laisser de traces sur le système, ni sur la clé USB, ni rien. Et voilà, donc ça fait le... Amael a été les interviewer pour montrer qu'est-ce qu'ils en pensaient, quel était leur projet, etc.
J'avais oublié à quoi se référait le nom Tails. C'est assez rigolo, c'est le système en temps réel, d'incognito amnésique. Voilà. Le nom est assez amusant, et l'amnésique, bah, c'est parce que voilà, vous le débranchez, il ne se rappellera pas de ce que vous venez de faire avec. Ça vous donne un petit peu de force face aux États.
Voilà, et puis en plus, bon, ça a été très utilisé, hein, parce que Edward Snowden a utilisé ça pour fuiter ses documents. Les journalistes utilisent ça aussi, bah, Glenn Greenwald ou Laura Poitras, qui ont interviewé Snowden et qui assistent Snowden dans toutes ses démarches. Donc voilà, la NSA a reconnu que ça les emmerdait très violemment parce qu'ils n'avaient pas moyen de désanonymiser les gens. Donc c'est vraiment un bon système, mais bon, ils ont besoin de sous, ils ont besoin de motivation, de bénévoles pour gérer ce système-là, parce que ça se fait pas tout seul, il y a la sécurité, donc voilà, il y a 11 000 utilisateurs au quotidien de ces systèmes, et bah, voilà, faut aller les aider, même si vous savez pas coder, il y a de la doc à rédiger, il y a des sites à mettre à jour, il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à les rejoindre, c'est très intéressant. Donc Numérama, Mozilla choisit de défendre Mozilla, pas les valeurs du logiciel libre, par Guillaume Champeau.
C'est un article super vache, surtout alors en fait les 10 ans de Mozilla, je crois que c'était la semaine dernière. Donc c'est un article qui nous parle d'une évolution récente, d'un contrat récent. D'habitude Mozilla et son navigateur Firefox utilisent par défaut le moteur de recherche Google, et là ils viennent de changer en partie.
Voilà, donc bah, c'est vrai que c'est un peu vache parce qu'on leur tapait déjà violemment dessus parce qu'ils étaient financés à 80% par Google. Google était le moteur de recherche par défaut dans Firefox. Et là, bah, le contrat est arrivé au bout, donc bah, ils ont dû le renouveler et bah, ils ont un peu abandonné Google et ils ont été se rapprocher de Yahoo, de Yandex ou de
Baidu, non ?
De Baidu pour les Chinois. Et donc, bah, ils se reprennent encore une volée de bois vert parce que, bah ouais, vous êtes des grands méchants, vous avez pactisé avec l'ennemi, avec en particulier la Chine, qui est un moteur de recherche très censuré et contrôlé par les Chinois.
Par l'État chinois.
Et puis, vous avez effectivement, maintenant, vous êtes débarrassé du monopole de Microsoft, donc vous risquez
de Google.
De Google. Et donc, vous risquez plus d'avoir des pertes de financement, mais bon, vous avez été pactisé avec Yahoo et d'autres choses comme ça.
Donc c'est des gros sous qui sont en jeu, il y a 1200 développeurs qui bossent sur les outils de notre futur, Firefox, Firefox OS pour les téléphones. Moi perso je trouve que c'est effectivement d'un côté pactisé, d'un autre côté survivre et continuer à apporter des outils qui sont faits par la communauté, qui sont des outils libres au sens fort. C'est un peu rageant quand même de s'appuyer sur les revenus de la publicité.
Ah, voilà, bah c'est vrai que c'est un peu, même encore à l'Ubuntu Party, ça avait lieu ce week-end et ça a pas mal trollé là-dessus parce que c'est vrai que Mozilla est censé défendre les valeurs du logiciel libre.
Ils le défendent
très très bien, mais d'un autre côté, des fois, ils se financent en pactisant avec l'ennemi et bon, ça coince des fois un peu avec certains libristes un peu extrémistes, on va dire.
Nous,
voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut faire de l'argent. Ils ont quand même 30% de part de marché, donc c'est pas des petits projets.
En tout cas, il faut faire de l'argent pour continuer à payer des développeurs qui bossent à temps plein sur ces outils.
Du matériel, à côté de ça, ils développent quand même le Firefox OS pour essayer de libérer vos téléphones portables. Donc voilà, ils font quand même des belles choses, mais bon, c'est vrai, ils vont chercher de l'argent, pas forcément là où on attendrait, ou en tout cas on aimerait qu'ils aillent les chercher. Next Impact, au ministère de la Culture, craintes et revendications sur le chantier du droit d'auteur, un article de Marc Ries.
Un bon article, pas mal, sur le chantier du droit d'auteur au niveau européen essentiellement. Il y a des lois qui sont en train d'être réfléchies. Quelque part, c'est une réécriture des droits d'auteur au niveau européen. Et justement, cette réécriture, elle ne plaît pas à tout le monde, elle ne plaît pas aux ayants droit.
Ouais, aux ayants droit et aux majors, parce que bon, en gros, ils veulent remettre sur la table un peu les articles qui avaient été négociés il y a quelques temps, bah, sur le droit à la copie privée, sur les extensions, toutes les exceptions, l'exception culturelle française et autres. Donc là, bah, ça se passe au niveau européen, et bah, ils veulent tout remettre à plat sur la table. Et bah, les majors, forcément, ils veulent protéger leur business... Voilà, avec des avis.
Avec des blocages au niveau des prestataires techniques.
Au niveau des prestataires techniques, en essayant de retaper plus violemment encore sur tous les hébergeurs de contenu, avec les fameux notices on takedown, et pas, donc qui les obligent à rester. Une fois qu'on a notifié un contenu, en fait, ils aimeraient bien que le contenu reste supprimé à vie et non plus revenir périodiquement. Ils tiennent aussi à leur business model avec ne supprimer la copie privée ou encore retaper encore plus violemment. Faire passer à la caisse encore plus de monde.
Oui, c'est surtout voilà, ça. Au final, s'ils peuvent faire payer les téléspectateurs, les auditeurs plusieurs fois, s'ils peuvent nous obliger à écouter de la pub, à regarder de la pub quand on regarde un DVD, voilà. C'est une horreur. Ça fait vraiment mal au cœur. Et surtout, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que le ministère a l'air d'aller dans leur sens, de dire oui, oui, bien sûr, on ne reverra pas les clauses de droit d'auteur, sauf si ça vous protège encore plus, comme s'ils en avaient besoin. Ils ont déjà la vie des auteurs plus 70 ans, c'est énorme. Donc c'est un peu rageant. Heureusement, à côté de ça, il y a un calendrier de l'Avent qui vient de sortir pour l'année 2015 et les nouvelles œuvres qui vont tomber dans le domaine public.
Dans le domaine public, voilà.
Monter dans le domaine public.
Mais bon, après, c'est quand même un vaste chantier, hein, parce qu'après, ils se défendent en disant, enfin, ils se protègent en disant bah, on veut rémunérer les auteurs. Au final, le gros du morceau, c'est quand même eux qui le touchent, et pas les auteurs directement. Il y a que quelques rares auteurs qui arrivent à vivre de leur métier, et tous les petits sont complètement snobés par les majors. Donc voilà, il faudrait vraiment mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour gérer tout ça, parce que ils veulent vraiment tout fermer, tout brider, et pour le consommateur et les personnes vraiment intéressées par la musique ou autre, bah c'est vraiment pas bon, quoi.
Je rappelle, il y a le Fair Use aux États-Unis, il est hors de question de le rajouter. Il avait été question d'autoriser tous les échanges non commerciaux. Alors, bien que ce soit difficile à définir, c'est intéressant à envisager quand même. Et puis, en France, on avait commencé à passer une licence globale où on paye pour avoir un accès global à tous les contenus, mais c'est pas passé. Les députés, les sénateurs se sont réveillés, ont pas tout à fait... Bon, ça faisait pas plaisir aux ayants droit qui ont tapé, qui ont eu ce qu'ils voulaient.
Mais à côté de ça, on s'est pris Netflix hein, en France. Donc voilà, la licence globale, c'est possible de le faire. Hein. Netflix, c'est un peu l'archétype même d'une licence globale qui dit pas son nom.
Les commerciales.
Les commerciales et autres.
Par les mêmes personnes.
Et voilà quoi. Donc c'est toujours une histoire de gros lobby. Et on espère que ça bougera un peu avec le Parlement européen. Donc ZDNet France, format ouvert à l'école. L'April lance un appel à un article de Louis Adam.
Alors ça, c'est la grosse nouvelle, puisqu'on est derrière, forcément.
Ah bah oui, complètement. Donc l'April a lancé un appel en fait, à l'interopérabilité et au format ouvert dans l'éducation nationale, parce que c'est vrai que quand on est étudiant, malheureusement, on nous demande de tout rédiger dans des points doc ou des points XLS, donc avec la suite Microsoft Office, voire même pire, hein, ça peut être des suites Photoshop ou autres utilisées, on a l'obligation de s'en servir et inciter très fortement, voire même à craquer par les professeurs.
Ça arrive.
Donc voilà, et donc il y a un appel de lancer, bah, si vous voulez nous soutenir et bien montrer à l'éducation nationale bah, qu'on aimerait bien avoir des formats libres et pour vraiment ouvrir l'éducation nationale, bah, allez-y et inscrivez-vous.
Il y a déjà pas mal de monde qui a signé, on a dépassé largement les 3000, mais il faut vraiment plus encore, il faut se mobiliser. Il en a été question au Parlement, il y a Isabelle Attard qui a discuté ce genre de sujet, ça a été snobé par les ministres hein, malheureusement, mais en tout cas c'est un gros sujet et le sujet fait parler de lui, donc c'est pas si mal. Donc interopérabilité, le mot et le concept est un peu compliqué, mais faut le défendre.
Vox, the court set a new record for rejecting software patents in 2014 by Timothy Billy.
Donc, un article en anglais qui parle de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, en lien aux brevets logiciels et aux cours de justice qui rejettent et qui ont rejeté pour la première fois un grand nombre de brevets logiciels.
Voilà, bah, il y en a de plus en plus en fait. En Amérique, apparemment, ils ont l'air de se bouger un peu et les différentes cours de justice en ont ras-le-bol de voir plein de brevets et des trolls dans tous les coins avec des batailles juridiques à n'en plus finir. Et donc, bah, ils n'hésitent plus maintenant à rejeter de plus en plus de brevets et à appliquer stricto sensu la loi sur la brevetabilité. Et donc bah, maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, il y en avait même pas une dizaine, il y en avait moins de 5 il y a quelques années. Maintenant, on est à plus de 20 par an à être rejeté.
C'est pas encore énorme, mais
c'est pas énorme, mais ça protège pas mal.
C'est quand même un bon début. Alors, le meilleur article pour la fin.
Le meilleur article, donc des Grindam, des actrices X expliquent la neutralité du net en vidéo. Un article par Emmerich.
Donc un super article, allez jeter un œil, il y a déjà une jolie photo en démarrage. Oui,
regardez la vidéo aussi.
La vidéo est vraiment sympa, c'est des actrices très sympathiques, c'est en anglais bien sûr la vidéo, mais on comprend quand même.
Voilà, c'est on facile. Comprend bien le propos.
Si, on comprend super bien.
Donc bah, c'est une loi que Barack Obama essaye de faire passer sur la neutralité d'Internet. Qui est une très bonne loi, hein, parce que la neutralité d'Internet, c'est quelque chose de très important. Et bah voilà, des actrices X qui se sont bougées un peu pour faire leur pub et montrer bah, que même pour le porno, la neutralité d'Internet, c'est important.
Surtout
pour le porno, parce que comme elles disent bien, bah, les pauvres doivent avoir les mêmes droits que les riches pour regarder du porno.
Et donc, personne ne va les défendre.
Et personne n'ira les défendre.
C'est indéfendable, le porno.
Voilà.
Donc c'est un site qui s'appelle Funny or Die, hein, drôle ou mourir. Et effectivement, le propos est vraiment bien tenu parce qu'on ne s'attend pas du tout,
pas du tout à ça. Et voilà, c'est vraiment assez marrant. Et
donc ça a fait le buzz sur le réseau. Ouais. Forcément, tous les geeks l'ont distribué.
Et ça pourra peut-être faire bouger les choses. Hein. C'est vrai que le porno est comme une industrie, un business assez florissant dans ce bas monde.
Certains disent que c'est ça qui a créé Internet.
Voilà, et bah voilà, c'était une bonne initiative et un peu marrante. Donc ça fera peut-être bouger les choses sur le sujet.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Et ben voilà, ce serait fini. Et puis bah, à la semaine prochaine, Manu.